C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, les membres de l'AFIC ont rejeté à 61% l'entente de principe négociée avec le gouvernement. Les pourparlers préliminaires ont pu reprendre hier soir. La question ce matin, est-ce qu'une meilleure entente est possible? Luc?
Non. Leur résistance mène nulle part. Elle est déraisonnable. Je la comprends par contre. Je la comprends parce qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être important dans la gestion des hôpitaux, dans le débordement, dans ce que tu peux faire avec un salaire d'infirmière. Tu ne peux plus devenir propriétaire, c'est pas compliqué. Ça a changé en 2-3 ans. Maintenant, tous les Québécois qui gagnent moins de 100 000 $ peuvent dire adieu à leur rêve de devenir propriétaire. Donc, il y a un mal-être. De l'ensemble des on a vu la même résistance de la part des enseignants. Hein, on n'est pas assez payé, on n'est pas assez payé. Comment ça, vous n'êtes pas assez payé? Vous êtes payé tellement plus qu'il y a 10 ans. Mais je ne peux plus rien faire avec cet argent-là. Alors, il y a un mal-être. Maintenant, est-ce que la convention collective peut régler ce mal-être-là? Ben non. Les infirmières sont parties en négociation avec l'idée d'avoir des augmentations salariales de 24 % qui étaient demandées comme une mesure corrective par rapport à, par rapport notamment à l'Ontario, où sont les payés à peu près les mieux payés au monde. Ceci étant dit, en Ontario, ils ont des conditions que les infirmières refusent ici, comme par exemple le 12-12-12, obligatoire. Mais donc, elles voulaient 24 % de correction plus l'inflation annuelle. Ben, c'était impossible. Ça n'aurait jamais pu se faire. Les conventions collectives qui viennent d'être signées, qui donnent 17,9 % entre 17,5 et 17,9 % sans les primes, ça a augmenté le déficit de l'État de 7 milliards de $. Quand l'ensemble des ententes vont être signées, ça va être autour de 10 milliards de $ de plus de dépenses pour l'État. Bon, là-dessus, il va en récupérer 2,5 en impôts. Mais quand même, on est à 7,5 milliards de $ de plus par année. Comment tu veux avoir plus que ça? Tu peux pas. C'est illogique. Par ailleurs, quand tu regardes les demandes des infirmières, elles voulaient avoir... pas de transfert sans formation. Bien, pas de mobilité tout court. Mais si jamais il y a mobilité, il y avait grosse insistance sur la formation. Ensuite de ça, pas d'affectation à un autre établissement obligatoire. Un TSO minimal, il est à 1,1 de 1% en ce moment, le TSO, par rapport aux heures travaillées. Contrairement à toute l'espèce de couverture médiatique qu'on a, TSO, 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 c'est 1/10 de 1% des heures travaillées, là, on s'entend? Il dit « Ah oui, mais souvent, je travaille en temps supplémentaire. » mais puis on me dit « Si je refusais, ce serait du TSO. Mais comme j'accepte, c'est du temps supplémentaire. » Oui, c'est ça la définition. Il y a temps supplémentaire puis il y a temps supplémentaire obligatoire. C'est deux choses différentes. Des primes à l'étude pour le travail de fin de semaine, des salaires plus importants, une discussion ouverte sur le ratio. Les ratios, c'est très important pour les infirmières. Est-ce que s'il y a des absentes, on répartit le travail en celles qui restent? Puis un travail de fond pour éliminer les agences. Elles ont obtenu sur chacun de ces points-là des corrections importantes. Elles n'ont pas tout eu, mais sur chacun de ces points-là, il y a eu négociation, elles ont eu des gains. Bien, une négociation, c'est ça. Tu n'auras pas 100 % de tout ce que tu demandes, mais tu as eu des gains sur l'ensemble de ce que tu as demandé.
Nathalie.
Bien, on est loin de la coupe aux lèvres. Hein? Les partis ont une très grosse côte à remonter. Les infirmières et les infirmiers, entre autres, sont fortement mobilisés, en particulier ceux de la Mauricie-Centre-du-Québec. J'écoutais l'entrevue que tu as faite avec la présidente de la FIC.
Je peux te donner un chiffre?
Oui, oui.
Oui, parce qu'une infirmière de cette région-là, ils ont voté à 78 % là, de la participation.
Ouais.
Et le non, le rejet de l'entente, à plus de 70 %.
Aïe, aïe, hein? Alors, c'est assez éloquent comme résultat. En fait, ce qu'ils disent essentiellement, c'est que, bon, l'offre du gouvernement n'améliore en rien les conditions de travail, les conditions de soins qui sont exécrables. Rappelez-vous, là, la FIC, dans son positionnement, a lié l'amélioration des conditions de soins aux conditions, les conditions de travail aux conditions de soins. Alors, je vous donne quelques exemples, là, de ce qu'elle considère être nul dans cette entente. Rien pour diminuer le TSO, rien pour l'attraction dans le réseau, rien pour la rétention du personnel, rien pour diminuer la charge de travail au quotidien, rien pour améliorer la stabilité de nos équipes et le sentiment d'appartenance. Elle reproche au gouvernement...
Et tout ça, c'est faux, hein, Nathalie? Tout ça, c'est faux.
Je sais, ouais. Mais je vous lis quand même là, ce qu'elles affirment. Okay. Elles disent au gouvernement, vous nous avez promis de la stabilité, au contraire, vous nous offrez de l'instabilité, de l'insécurité. Elles reprochent au ministre de la Santé d'étendre au Québec entier, en entier, les fusions, les abolitions de postes, les déplacements forcés massifs. Finalement, il semblerait qu'il n'y a pas grand-chose de bon dans cette entente pour toutes ces... tous ses membres qui ont dit non à cette entente. Quand je vous dis qu'on a une grosse côte à remonter, vous comprenez bien avec ce que je viens de vous lire qu'on est loin d'une entente ou qu'on est loin d'un environnement qui permettrait d'améliorer l'entente qui est en place. Il y a les salaires et les conditions de travail. Moi, ma lecture, c'est que sur les conditions de travail que ça achoppe. Et l'échec, selon moi, elle n'est pas uniquement imputable. En fait, il y a l'échec de la FIC parce que contrairement à ce que dit la présidente, c'est un désaveu pour la FIC, ce rejet, un désaveu pour la haute direction, de même que pour les délégués qui ont recommandé aux membres de voter pour cette entente. Mais c'est aussi un échec pour le gouvernement. Et le ministre de la Santé, M. Dubé, mise énormément sur cette entente pour préparer des conditions gagnantes liées à la création de l'agence en santé. Alors, le ministre a dit, écoutez, on va commencer par régler la convention avec les infirmières et les infirmiers, entre autres, perfusionnistes, inhalothérapeutes. On va régler avec la FIC, puis si on règle avec la FIC, si l'entente est acceptée, bien, on croit qu'on va pouvoir créer un environnement favorable à la création de l'agence. On s'entend-tu pour dire ce matin que le ministre a encore du chemin à faire? Et moi, je trouve ça extrêmement préoccupant pour la suite des choses parce que les infirmières, les infirmiers, entre autres, sont très mobilisés. Et ça, c'est de mauvais augure pour la suite des choses. Il y a énormément de changements là, qui s'en viennent avec la création de l'agence. Alors, il ne faudrait pas que le gouvernement l'échappe parce que si le gouvernement l'échappe, ça veut dire que la démobilisation, c'est-à-dire que la mobilisation va contribuer peut-être à une démobilisation, c'est pas démobilisation, mais un moral. Le moral des troupes va être affecté sur le terrain.
La capacité de nuisance des infirmières et des infirmiers est assez importante. C'est-à-dire que comme on est sous la loi des services essentiels, elles font des grèves de 45 minutes, une heure, des fois une grève spontanée, deux heures, ils sortent, etc. Et ça permet de perturber tout l'agenda, par exemple, du bloc opératoire. Et sans avoir un coût énorme pour les infirmières. Donc, grève de deux heures, le coût n'est pas énorme, à moins que ce soit une grève illégale, mais la plupart du temps, c'est des grèves légales. Et ça va permettre donc de faire ce que Nathalie a dit, c'est-à-dire une perturbation qui va durer longtemps dans le temps, tant que l'entente ne sera pas signée. Contrairement aux enseignants-enseignantes, parce que, je devrais dire enseignantes-enseignants, en tout respect, parce que ce sont surtout des femmes, qui, elles, ont dû payer le prix de leur grève, qui est énorme, en termes de journées perdues, de salaire, etc. Donc, ça se peut, oui, qu'on s'en aille vers un environnement de travail fortement perturbé. Mais moi, je dis au gouvernement qu'il ne faut pas lâcher. Il faut tenir la position parce qu'ils ont fait beaucoup de concessions. Et j'invite les infirmières qui doivent maillir à matin. Ça ne doit pas être possible. J'en croise une. J'espère pas tomber malade dans la prochaine semaine.
T'as pas de prise de sang aujourd'hui?
Non, c'est ça. Non, mais écoutez ce que j'ai à dire. Comme ça vous permettra de maillir de façon plus raisonnable et aussi d'avoir des arguments pour contrer les miens qui sont ceux du gouvernement. C'est-à-dire... Le syndicat est allé avec 60 demandes, OK? Dans ces 60 demandes-là, ils ont checké les 60, là. Il y a du positif dans les 60. Une négociation, c'est ça. Tu peux pas dire, je veux que l'ensemble des infirmières du Québec travaillent de 8 heures à 3 heures dans le poste qu'elles veulent, le plus proche de la maison. On comprend, tout le monde veut travailler proche de la maison. Qu'elles n'aient pas de temps supplémentaire parce qu'elles ont des familles dans un tiers des cas. Qu'on ne travaille pas à la fin de semaine. Que je ne travaille pas des heures difficiles. Ça ne fonctionne pas. Le système ne permet pas ça. Il faut qu'il y ait du temps supplémentaire le soir quand il y a des absentéismes. 40% d'absentéisme, je répète, dans certaines régions, notamment la Mauricie. 40% de temps supplémentaire d'absentéisme, il faut que quelqu'un rentre pour remplacer la personne absente. Alors, il faut que tu regardes c'est quoi l'effort du gouvernement. Puis le gouvernement, pareil, le gouvernement est arrivé avec le couteau entre les dents. Moi, je veux de la mobilité complète. On va fusionner toutes les conventions collectives, puis ça va marcher de même. Il n'y a pas eu ce qu'il voulait, lui non plus. Tu n'as pas le droit de déplacer quelqu'un de façon obligatoire. Et tu es obligé d'avoir la formation pour pouvoir déplacer une personne d'un poste à un autre. La FIC a fait son travail. La FIC a obtenu des gains. Si vous voulez aller plus loin que ça, bien, définissez ce que vous voulez en vous disant que vous n'êtes pas toute seule à la table de négociation. Il y a une autre contrepartie qui veut le contraire de vous en face de vous. Ce que vous avez obtenu, est-ce que c'est satisfaisant en fonction de ce contexte-là?
Nathalie.
Bien, justement, Gilles Bouchard a dit, écoutez, là, on va identifier les enjeux qui achoppent parce qu'on peut, c'est pas vrai qu'on peut reprendre à zéro la négociation avec le gouvernement. On va construire sur ce qui est positif, sur ce qui fait l'objet d'un certain consensus, puis on va essayer de trouver des solutions pour là, effectivement, où ça achoppe. Mais là où je te suis, Luc, et moi, je trouve ça assez fascinant. Là, je suis convaincue qu'il y a des infirmières et infirmières à la retraite qui peut-être se disent la même chose. Quand tu es infirmière, tu es nouvelle infirmière, faut que tu acceptes d'en faire des quarts de nuit, faut que tu acceptes de travailler la fin de semaine. Je comprends l'enjeu de la conciliation travail-famille, mais ça peut pas être toujours l'argument qui est évoqué, sinon on va scléroser le système, tout le système de santé. Ça se peut pas. Alors, je comprends que ça prend des voies de passage, mais à un moment donné, quand tu commences dans le métier, ben faut que tu commences en bas de l'échelle, puis t'en fais des heures qui te plaisent pas, puis oui, tu fais garder les enfants en fin de semaine, puis oui, ton chum prend le relais quand il peut le faire. Enfin, pas simple, mais clairement, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler pour la suite. Mais le gouvernement peut pas prendre 6 mois là, pour régler l'histoire. Là. Il faut vraiment battre le fer pendant qu'il est chaud.
Merci à tous les deux. On va faire une pause et puis au retour, le Parti québécois qui propose un gel des travailleurs étrangers temporaires. Est-ce que c'est une bonne idée?
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le Parti québécois, qui est en Conseil national en fin de semaine, propose de geler le nombre de travailleurs étrangers temporaires au Québec. Est-ce que c'est une bonne idée, Nathalie?
Bien, compte tenu du rôle stratégique que jouent les travailleurs étrangers temporaires dans notre économie, j'ai envie de vous dire qu'un gel, c'est mieux qu'une diminution. Il y a la CAQ et le gouvernement de Justin Trudeau qui proposent une diminution des travailleurs temporaires. Et les arguments qui sont évoqués, autant du côté de la CAQ, du fédéral, que du Parti québécois, c'est lié à la crise du logement. Le chef du Parti québécois, M. Saint-Pierre Plamondon, dit en fin de semaine, c'est la crise du logement qui nous motive à défendre le gel, un gel du côté des travailleurs étrangers temporaires. Par contre, cette affirmation, cette idée qui est formulée par le PQ a été faite sans qu'on mesure les conséquences liées à un gel. Jamais le chef du Parti québécois nous a dit, par exemple, quels seraient les impacts chez nos entreprises. Est-ce que le secteur agricole, par exemple, serait exempté de ce gel? Alors, ces questions sont extrêmement pertinentes parce que je parlais du rôle stratégique que jouent les travailleurs étrangers temporaires dans notre économie. Là, en 2023, ils étaient presque 226 000. Alors aujourd'hui, peu importe où vous allez au Québec, là, dans toutes les régions, je vous le dis, là, McDo, chaîne de restauration rapide, agriculture, commerce de détail, nos travailleurs étrangers temporaires sont partout. Mais dans le cas du PQ, on peut dire qu'ils ont de la suite dans les idées. Ils ont même de la constance dans les idées qu'ils défendent parce que en matière d'immigration, depuis que Paul Saint-Pierre Plamondon est en poste, ils ont toujours prôné une approche prudente, une approche, j'oserais dire, conservatrice. Hein? Rappelez-vous, les seuils d'immigration, le PQ dit 35 000 alors que la CAQ a proposé 50 le Parti libéral du Québec, 70 000. Ils proposaient même de plafonner le nombre d'étudiants étrangers. Enfin bref, ils ont une approche toujours qui était extrêmement prudente.
Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais ça va coûter cher en Moses en termes de changement complet de nos façons de faire économiques. Nathalie vient de le dire, là, des travailleurs temporaires. Par exemple, l'industrie forestière, l'industrie de la restauration hôtelière aussi, de l'agriculture. Puis faut
on
voir
oublié la santé, j'ai oublié la santé.
Oui,
Luc,
ben
santé,
oui c'est vrai. Oui, par exemple, dans l'IRPA, etc. Puis Dieu sait qu'on n'a pas trop de personnel là-dedans. L'agriculture, il faut voir les conditions de travail aussi. Là, en serre, il fait chaud. Là. Puis quand tu regardes les photos des travailleurs agricoles, j'avoue que je parle de photos. Hein. Je ne suis pas allé moi-même sur le terrain, alors il faut prendre ce que je dis avec un grain de sel. Néanmoins, on ne voit pas beaucoup de productivité quand ils ramassent des fraises ou des asperges et compagnie. Qui veut faire ce travail-là? Est-ce que les Québécois veulent faire ce travail-là? Bien, la réponse...
Écoute, la question la plus terrible qui peut faire l'objet d'un débat de 3 semaines, là, est-ce que les Québécois veulent encore travailler?
Voilà.
C'est un peu carré, là.
Moi, je suis un peu d'accord avec Paul. En construction, maintenant, c'est quoi l'âge moyen des travailleurs de la construction? Hey, ça, c'est tough, la construction.
C'est dur, certain.
Il fait fret, puis tu te lèves tôt, puis tout. Puis c'est dangereux, puis il y a des blessés, tout à mal au coude, puis aux épaules. Mais les jeunes, ils vont-tu en construction? Non. Les jeunes n'y vont plus en construction. Est-ce que on a perdu des infirmières, énormément d'infirmières pendant depuis 2 ans? Il y en a 1 000 de moins cette année, alors qu'on en a besoin de 10 000 de plus d'ici les 10 prochaines années.
Les conditions de travail.
Et qui sont les infirmières qui veulent travailler? Qui sont-elles? Ben des étrangères. Puis des étrangères, parfois, qui viennent de pays occidentaux, qui disent c'est pas si pire ici par rapport à d'autres. Mais dans les centres de personnes âgées, par exemple, CHSLD, RPA, etc., c'est quoi la couleur de la peau des travailleuses, des travailleurs? Ben, est-ce que des Québécois veulent faire ce travail-là? Et la question est posée. Alors, la même question est posée pour les travailleurs temporaires. Alors, changer de modèle économique, ça veut dire mettre à mal une partie de l'agriculture, mettre à mal l'industrie forestière. Est-ce qu'il y a un gouvernement qui est prêt à faire ça? Ben, Paul Saint-Pierre Plamondon a l'air de dire que lui, il le ferait. Et puis, à date, il a l'air de tenir ses positions puis d'aller de l'avant. Mais s'il le fait, il va falloir un changement complet des manières de faire. Ceci étant dit, en bout de ligne, on a 2 fois plus de travailleurs en temporaire qu'on en avait il y a 3 ans. Est-ce qu'on est deux fois moins plus riche parce qu'on a deux fois plus de travail. Est-ce que la richesse a augmenté? On a deux fois plus de travailleurs temporaires et d'immigrants que les autres pays du G7.
Mais parce qu'on a une population qui vieillit puis il n'y a pas un renouvellement de main-d'œuvre.
Bien, le Japon aussi, l'Italie aussi, l'Espagne aussi. Bon, puis est-ce qu'ils ont l'air plus malheureux que nous? Bien, ils sont organisés différemment.
Mais sur le plan économique, la présence de travailleurs étrangers temporaires est venue se substituer à la pénurie de main-d'œuvre. Puis tu l'as dit, Luc, ce qui a fait qu'on a émergé un nouveau modèle sur le plan économique. Alors, on peut pas se passer de travailleurs étrangers temporaires. Et ce que je trouve extrêmement désolant, c'est que les chefs de partis politiques lancent toutes sortes d'affirmations. On gèle, on diminue sans avoir aucune donnée qui appuie leurs affirmations ou leurs prises de position. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir des données objectives? Combien d'entreprises au Québec embauchent des travailleurs étrangers temporaires? À chaque année, combien arrivent en sol québécois? Et l'autre chose, parce que l'argument est lié à la crise du logement, si on obligeait chaque employeur qui fait venir un travailleur étranger temporaire à être responsable de loger ses employés, il me semble qu'on aurait peut-être un peu moins de problèmes qu'aujourd'hui. Mmh. Pourquoi on ne ferait pas ça? En fait, le milieu agricole le fait. En santé, on commence à le faire. Par exemple, dans mon village, à Marion, on a construit des mini-maisons. Puis à Gaspé, c'est la même chose aussi, pour accueillir... C'est le CIUS qui a construit... Le CIUS là-bas qui a construit des mini-maisons pour accueillir tout ce personnel qui arrive sur le terrain. Alors, si on confiait cette responsabilité aux employeurs plutôt qu'à l'État, parce que là, dans le fond, c'est facile de dire, ah, bien, on vit une crise du logement, puis on est incapable de livrer le nombre d'unités dont on a besoin chaque année. Alors, bon, fait que la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on accueille moins de travailleurs étrangers temporaires. Mais la solution, pour le fardeau,
oui,
pourrait
Nathalie,
être de poser
mais...
davantage
oui,
sur les...
Nathalie, oui, tout à
non?
fait, mais tu sais qu'il y a des employeurs qui le font déjà, comme par exemple production de turbines éoliennes en Gaspésie.
Oui, oui.
Mais
oui,
qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent toutes les maisons qui sont disponibles et où ils louent tous les logements qui sont disponibles. Ici, on a ça aussi dans le Mile End, des agences qui raclent puis ramassent tout à Outremont, qui ramassent tout pour Airbus notamment, ramassent tous les logements disponibles. Et ça contribue à la crise du logement, même s'ils disent « on va leur trouver un logement ». Fait que l'affaire, c'est que ça prendrait une vision, comme tu l'énonces, mais à plus haut niveau, en sens, oui, vous allez le faire, mais en ajoutant des unités, pas
mais
en prenant toutes les unités disponibles.
Mais Luc, on s'en sortira jamais tant aussi longtemps qu'on va construire un rythme familial comme on construit aujourd'hui, là, on y arrivera jamais. Alors, parce que les conséquences sur le plan économique sont importantes. Pourquoi? Parce que moins de travailleurs, parce qu'un gel de travailleurs temporaires, faut pas se raconter d'histoire, ça signifie à moyen terme et même long terme, une diminution de travailleurs temporaires. Mais ça veut dire qu'on va brimer la capacité qu'ont certaines entreprises de croître. Hein? On va mettre une hache dans la capacité de certaines entreprises de créer de la richesse.
Oui, mais Nathalie, moi, j'ai une question à te poser parce que toi, tu étais une ex-libérale, les ex-libéraux, vous avez toujours poussé sur le développement économique. Puis moi, sur le développement économique, je dis oui, mais. Regarde, par exemple, la grosse compagnie américaine qui s'en vient faire des fraises au Québec, là. Grosse compagnie américaine qui va rapatrier les profits aux États-Unis.
Driscoll.
Puis qui va faire les fraises avec des travailleurs temporaires. Il reste quoi dans le développement économique? Le gars qui fournit les diffuseurs d'eau, c'est quoi? C'est du profit qui s'en va aux États-Unis? C'est des emplois qui s'en vont au Mexique?
Mais comment se fait-il qu'on est incapable de s'occuper nous-mêmes de notre production de fraises? Comment se fait-il qu'on autorise un joueur américain à venir investir en sol québécois sous prétexte qu'il va créer quelques emplois? Non, excuse-moi, ce modèle-là, honnêtement, lui, il est questionnable. Mais sur l'importance de créer de la richesse, Luc, l'équation est toute simple. Là. Tu crées de la richesse, pourquoi? Pour te permettre de payer tous nos services publics qui sont disponibles au Québec. Et Dieu sait qu'on a un panier de services qui est assez impressionnant.
Sauf
les
qu'on est allé
de
trop
garde,
loin, Nathalie.
Le système de santé maladie.
D'accord. Mais ça, je sais que c'est ça le message officiel. Puis je suis d'accord que oui.
Mais c'est
il
plus que le message officiel, c'est la réalité.
Oui, mais
choix,
cette année, et depuis, je pense que depuis 2 ans, en fait, mais cette année du moins, le PIB par habitant au Canada a diminué. Comment ça que le produit intérieur brut par habitant a diminué? Pas parce qu'on produit moins, parce qu'on a reçu 2 millions de personnes en plus. Et donc, il y a de la croissance, mais quand tu divises cette croissance-là par habitant, il y en a pas.
On peut questionner la productivité aussi, parce que ça, la productivité, c'est un autre enjeu. Parce que tu utilises une... Bon, je comprends ton argument, mais la réalité est probablement, Luc, un peu plus nuancée que celle
si tu veux, on peut parler de productivité.
Non, demain.
OK.
Moi, je suis productif, j'ai autre chose à faire. Merci.
C'est 23.